Connaissez-vous la chaleur d'un feu de charbonnier au cœur de la forêt? La caresse du vent sous les ailes d'un gypaète barbu? Le silence profond d'une grotte, là où hibernait l'ours des cavernes aujourd'hui disparu? Ou bien encore la morsure de l'eau sur la pierre calcaire? Dans le Vercors, les éléments parlent. Ils façonnent les paysages, nourrissent les histoires, sculptent les vies. Feu, air, terre, eau. Quatre forces indomptées, quatre sources d'inspiration, quatre portes d'entrée pour explorer ce territoire rude et généreux et les histoires de celles et ceux qui y vivent. Je suis Alice Roy et chaque mois, je vous emmène au cœur du Vercors, là où les éléments nous inspirent. Vercors, l'inspiration des éléments, est un podcast proposé par Inspiration Vercors. C'est quoi l'eau ?
C'est quoi l'eau ? L'eau, c'est H2O.
Sans eau, il n'y a pas de végétation, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas aussi ce massif qui a été creusé.
Épisode 2, l'eau, celle qui sculpte le Vercors.
Et donc, elle est précieuse et elle a un rôle dans les cycles naturels, géologiques de la Terre.
Avec Philippe Streff, hydrogéologue.
Alors, le rôle de l'eau dans la formation du Vercors, il est, je dirais, il est majeur.
Et Noémie Castin, monitrice de canyoning.
C'est la source de tout, en fait, l'eau.
L'eau façonne le Vercors depuis des millénaires. Pluie, neige fondue, rares sources. Goutte après goutte, elle creuse la roche, modèle les vallées, cisèle les canyons. Explorons ensemble les mystères géologiques du Vercors pour comprendre comment l'eau a sculpté ce territoire.
C'est elle qui nous relie tous. Cette eau qui s'écoule devant nous, elle est tombée sous forme de gouttes ou de flocons il y a quelques semaines ou quelques mois. Elle va rejoindre une rivière, la mer, l'océan, elle va s'évaporer.
Il est 9h du matin, le soleil brille déjà au-dessus de la cascade des Écouges, où je retrouve Philippe et Noémie pour plonger dans les temps géologiques du Vercors. Car ici, l'eau raconte la vie et la pierre, gravée dans chaque pli, chaque veine de ce massif.
Le Vercors, il a la forme qu'il a actuellement en partie à cause de son climat, qui est, on va dire, océanique, à tendance montagnard. Il tombe dans le nord Vercors environ 1,50 m d'eau par an, ce qui est à peu près le double qu'à Paris. Donc cette présence d'eau, c'est elle qui façonne le Vercors depuis quelques millions d'années seulement, et elle en a fait un massif spectaculaire.
On va au bord de la rivière, donc la Drevenne. Regardez où vous mettez les pieds, parce que du coup le chemin est un petit peu escarpé pendant quelques minutes. Et quand on est les premiers de la saison certainement à descendre, il y aura peut-être un peu de ronce. Du coup on est dans une forêt de buis. Et c'est des anciens sentiers qui ont été créés pour accéder à la rivière et des sentiers de pêcheurs et de riverains, quoi. On est sous des falaises qui sont caractéristiques en fait de la géologie locale, donc du calcaire, et donc ça va être des falaises grises, mais avec une particularité que moi je trouve magnifique dans le Vercors, c'est qu'on a des alternances de trois couleurs principales, le gris, le noir et le orange. Donc on approche de la rivière, et ici pour la petite anecdote, on est dans une zone de débordement, donc là on voit des restes en fait de petites flaques. Et on voit des embâcles, donc des tas de bois en fait qui ont été charriés par la rivière. Donc là, c'est complètement sec. Mais on voit que l'eau, elle n'est pas très très loin due aux pluies. Et en fait, cette zone, elle s'alimente en eau que quand il y a des grosses pluies en début de printemps, quoi. Et en été, elle est complètement asséchée. On ne s'imagine même pas que la rivière puisse arriver jusque-là. Voilà la petite zone de traversée dont je vous parle. C'est profond jusqu'à mi-mollet. Donc je vous invite à remonter les pantalons et puis après on sera au sec tout le long. Voilà.
Ça va ?
Ça ira, oui. Je vais essayer de garder pied.
Je vous aiderai parce que j'ai les chaussures qui vont dans l'eau moi, donc s'il y a besoin, je m'en fiche de mouiller les pieds. Par contre, je vais essayer de remonter les pantalons quand même.
Déjà on est impressionné, je crois, par la hauteur des falaises qui nous surplombent. En fait, ce canyon, c'est un exutoire de l'eau qui tombe sur le massif, sur une partie du massif. L'eau a profité de l'existence d'une faille pour trouver son chemin. Et comme on est dans une roche très dure à cet endroit-là, qui forme les falaises, la faille reste étroite, donc la puissance de l'eau est canalisée et on a une chute d'eau qui a déplacé des gros blocs qui proviennent de la falaise elle-même. Et c'est un endroit très sauvage et qui est intéressant à... Même si on ne pratique pas le canyoning, c'est intéressant à regarder déjà. Parce que c'est quand même assez rare d'être dans un milieu aussi spectaculaire, tout en étant accessible. Comme presque partout dans le Vercors, on est en présence de roches calcaires. Et donc ce sont des roches d'origine marine, dans lesquelles on peut trouver parfois des fossiles qui nous rappellent que... Il y a eu un océan ici, il y a à peu près 120 millions d'années, c'est-à-dire à l'époque des dinosaures. Lorsque le Vercors est né, ça a été le fruit de l'influence des Alpes qui bougeaient à côté. Et donc le Vercors était soulevé et plissé. Et donc les couches qui se sont déposées horizontalement, maintenant elles ont une inclinaison d'une 30 ou 40 degrés ici.
Là, ce qu'on observe, en fait, il y a un bout de roche qui dépasse en fait de la terre et des feuilles de la forêt. Et en fait, on voit bien ces stries, on voit des sortes de lames de roche en fait qui sont entrecoupées de sable. Et ça fait vraiment des grosses plaques de calcaire. D'ailleurs, elles sont un peu penchées. Ça, il y a certainement dû avoir un plissement ou quelque chose qui a fait bouger la roche. La roche, en fait, elle a vécu à l'époque des dinosaures. Et ce qui est intéressant quand on regarde les dates en fait, de l'âge des roches tout en haut des Écouges et tout en bas des Écouges, on se rend compte que le haut des Écouges a connu l'extinction des dinosaures, donc il y a vers 60 millions d'années si je ne me trompe pas. Et quand on redescend, on traverse le Crétacé et on arrive à l'apparition des dinosaures à la fin des Écouges et on fait une remontée dans le temps en descendant cette rivière.
Le Vercors est un massif calcaire. Le calcaire, c'est une roche sédimentaire qui s'est donc déposée au fond de la mer. On fait remonter l'histoire du Vercors à peu près à la moitié de l'ère secondaire. Il y a environ 120 millions d'années, on est à la fin de ce qu'on appelle le Crétacé inférieur. C'est une époque où il y avait beaucoup de dinosaures sur Terre. Alors pas forcément sur la zone du Vercors, vu que ici c'était la mer. Dans un climat beaucoup plus chaud qu'aujourd'hui, mais une mer peu profonde, où la lumière pénètre bien jusqu'au fond. Elle est propice à une vie très active, très abondante, avec des algues, plein d'animaux marins qui vont des coquillages aux crustacés en passant par les poissons. Et en fait, tous ces êtres vivants, que ce soit leurs coquilles, leurs arêtes, pour l'essentiel, ils sont constitués de calcium. Ce calcium, quand ces animaux meurent, se dépose au fond de la mer. Et au fil des siècles, des millénaires, cette accumulation de débris de calcium vont se transformer en calcite, qui va constituer la majeure partie du rocher calcaire que l'on voit aujourd'hui. On va dire que le Vercors, des fois on emploie à tort un peu de dire que c'est un immense gruyère. Quand j'encadre des Suisses, ils me rappellent que le gruyère, il n'y a pas de trou dans le gruyère. Enfin, peu importe cette image de fromage, mais c'est vrai que le Vercors, il est parcouru par plein de galeries souterraines, plus ou moins pénétrables, plus ou moins grandes. Et ces galeries résultent du passage de l'eau et de l'érosion du calcaire. L'eau peut dissoudre le calcaire de façon très lente. Le calcaire a été bousculé par la naissance des Alpes il y a 40 millions d'années, et surtout les 5 derniers millions d'années. Et à cette occasion, la roche calcaire s'est fracturée, s'est plissée, donc elle est pleine de fissures et plus ou moins grandes. Et donc c'est des endroits par lesquels l'eau peut s'infiltrer. C'est une des raisons pour laquelle il y a quand même très peu de rivières sur le Vercors, alors qu'il pleut plus que dans beaucoup d'autres régions. Si on parle des gorges de la Bourne, qui est donc la rivière principale qui draine le massif du Vercors. Cette rivière, si on était venu il y a 300-400 000 ans, Il n'y avait pas du tout ces gorges, ni ces parties profondes. Et en fait, quand l'eau s'écoule sur une roche dure, le principal facteur d'érosion, c'est la gravité, c'est-à-dire c'est le poids même de l'eau. Et donc, la vitesse d'approfondissement de la vallée par l'eau, dans le Vercors, dans du calcaire, peut atteindre 5 à 10 cm par siècle.
C'est un processus qui est hyper lent, puisque même si on peut voir de l'érosion en fait, à vue d'homme, puisqu'à chaque crue, en fait, on peut voir les matériaux qui bougent littéralement, des gros blocs quand il y a des grosses crues ou juste des graviers. Mais la forme du canyon, la largeur du canyon, par exemple, ça a pris des milliers, voire des millions d'années. Donc je pense que dans 100 ans, 200 ans, il n'y aura pas grand-chose qui aura bougé, en tout cas dans certains des canyons. Mais ça dépend pas mal du débit aussi. Il y a des canyons où ça bouge beaucoup et où il y a énormément d'érosion avec des blocs qui se déplacent. Donc elle est plus ou moins lente finalement, cette évolution. Observe à distance en fait une résurgence et une source en fait qui sort de la terre. Et en fait, comme c'est une source qui coule de manière beaucoup moins importante que le lit de la rivière, en fait on observe la formation de ce qu'on appelle le tuf. C'est un dépôt calcaire qui a amené par l'eau qui est riche en fait en CO2 puisqu'elle a traversé la terre et elle a accumulé du CO2. Et en fait, quand elle sort, et ben il y a un dégazage qui fait que le calcaire qui avait été dissous par CO2 va se redéposer. Et souvent on observe des formations de mousse en fait qui font des cathédrales géologiques qui se recouvrent de calcaire petit à petit, et les mousses vont se figer dans le calcaire et d'autres mousses vont pousser par-dessus, et au fur et à mesure et ben on observe des formes qui peuvent en plus changer au fur et à mesure de l'écoulement de l'eau, et ça peut être très très rapide. Au cours de l'année on peut voir des changements, voilà.
Du côté des grottes de Choranche où il y a plusieurs résurgences, on a calculé que le dépôt de calcaire était de 3 tonnes par jour.
Je suis venue à la géologie finalement très récemment. J'ai fait des études de biologie et la géologie, comme beaucoup d'entre nous, je voyais ça comme une activité un peu poussiéreuse et ça ne m'intéressait pas tant que ça. Et j'ai été bien bête de penser ça, voilà, parce que depuis que je pratique le canyoning, justement, je me suis posé ces questions de pourquoi cette roche, elle était comme ça, pourquoi elle avait cette forme-là. Et aujourd'hui, en fait, je trouve ça merveilleux de connaître tout ça et de voir tout ce que la roche, en fait, peut nous dire. Et moi, j'adore des fois lever les yeux au ciel et regarder 10 mètres plus haut les anciennes traces de la rivière et me dire, oh là là, j'aurais trop aimé être là à cette époque et voir quelle forme avait la rivière. Et voilà, et ça, c'est grâce à la géologie qu'on a toutes ces informations. On voit des fois des plissures, on voit des stries qui nous donnent, qui nous illustrent en fait ce que la roche elle a subi comme pression, comme basculement parfois. Et puis on trouve des fossiles aussi dans les canyons et dans les rivières, et du coup c'est super intéressant de voir ce qui vivait là en fait bien avant notre existence. Moi, ce qui me passionne dans le canyoning, outre l'aspect technique et l'eau, c'est la diversité de formes, de couleurs, d'obstacles en fait qu'on peut retrouver. Et il y a des fois, il y a des gens qui me demandent de comparer un canyon avec un autre, et enfin, je suis incapable de dire quel canyon je préfère, tellement en fait chaque canyon est différent, et ça c'est dû uniquement à sa géologie en fait. Il y a évidemment la végétation qu'on retrouve autour qui va donner un aspect plus ou moins tropical ou ce genre de choses, mais la géologie en fait du canyon, elle va expliquer si le canyon il est étroit, il est sombre, est-ce qu'il est profond. Est-ce que la roche elle est lisse? Est-ce que au contraire il y a pas mal de chutes d'eau? Est-ce qu'elles sont très verticales ou est-ce qu'on est plutôt sur un canyon où on va avoir beaucoup de marches? Est-ce qu'il va y avoir des toboggans lisses? Est-ce que, enfin voilà, ce genre de choses quoi. Des fois j'ai des questions assez rigolotes en fait de personnes qui n'ont pas du tout idée finalement de la manière dont un canyon peut se former. Et j'ai eu des questions des fois sur des cascades très creusées où on a l'impression qu'elles ont été faites pour l'activité du canyoning. qui me demande en fait si c'est nous qui avons fabriqué cet obstacle et comment on a fait, et voilà. Et bah, du coup, voilà, je leur raconte que non, c'est uniquement l'eau qui a creusé cette cascade et qu'on en profite actuellement, mais on n'a absolument pas créé cette cascade ou ce toboggan. Ou voilà. Moi, je pratique le canyoning depuis 7 ans maintenant. Je me suis concentrée d'abord sur l'activité, puis petit à petit, justement, en découvrant des roches complètement différentes d'un massif à l'autre, ou même des formes de canyon complètement différentes, même au sein du Vercors. Et ben, en fait, je me suis intéressée justement à pourquoi ça avait des formes différentes. Et en fait, on ne peut pas passer à côté, en tout cas quand on s'intéresse vraiment à l'activité, à côté de la roche. Et en fait, la roche, elle va expliquer même plein de choses qui nous concernent vraiment en tant que canyonneurs. C'est la roche, si elle est imperméable, et ben ça veut dire qu'en cas de crue, et ben on va avoir des crues qui sont beaucoup plus importantes qu'une roche qui est perméable où l'eau va s'infiltrer et qui pardonne plus s'il pleut. Donc en fait, on peut pas passer à côté de la connaissance de la géologie quand on est canyonneur, c'est pas possible.
Il est difficile d'avoir une idée vraiment de ce que le changement climatique pourra faire sur le Vercors. On en est un peu aux hypothèses, mais c'est vrai que si on a des changements de température plus brusques, on risque d'avoir des roches qui vont être impactées, qui vont devenir donc plus instables, donc probablement une érosion plus active. Du fait du réchauffement climatique aussi, on a vu que certains insectes ravageurs se sont attaqués à des plantes comme les buis. Et ces buis, ils contribuent à la solidité des versants ensoleillés. Donc ça, là aussi, on peut avoir un impact négatif qui va favoriser des chutes de pierres. Le manque d'enneigement peut-être aussi modifier l'hydrogéologie du massif, peut-être impacter sur la faune aquatique. Bref, il y a beaucoup de questions qui sont soulevées par le réchauffement climatique et c'est un défi qui est difficile à maîtriser dans la mesure où ce sont des changements qui se font malgré tout sur le long terme.
On est directement impacté par ce réchauffement climatique et on a des massifs comme le Verdon où il y a plus d'eau en été dans certaines rivières. Et dans le Vercors, on est relativement épargné à ce niveau-là parce qu'il y a énormément de pluie, il pleut beaucoup. Mais n'empêche que des étés très secs, en fait, quelqu'un de pas habitué, il verrait pas, mais nous qui passons notre été en fait dans le canyon, on voit le débit diminuer, on voit la hauteur des vasques diminuer. On voit le chemin de l'eau aussi qui est différent entre le début de saison et la fin de la saison. Et d'un été sur l'autre, si l'été est pluvieux ou si l'été est sec, et ben ça change complètement du tout au tout la forme et la descente du canyon en fait.
En fait, une montagne, un massif montagneux, c'est un petit peu comme toute chose sur Terre. Ça, on peut dire que ça naît, ça vit et ça meurt. Aujourd'hui, les mouvements tectoniques sont un petit peu apaisés et c'est l'érosion, notamment par l'eau, qui est en train de ronger le massif calcaire. Et les hydrogéologues ont fait un calcul il y a déjà quelques années pour savoir quelle était la quantité de calcaire qui disparaissait par l'érosion. On est arrivé sur des chiffres de l'ordre de 1 à 2 cm par siècle. Ça fait 10 mètres par 100 000 ans et ça fait 100 mètres en 1 million d'années. Si on avait la chance de vivre beaucoup plus longtemps, on verrait le Vercors diminuer en altitude, simplement par l'action de la pluie ou de la neige qui fond. Et donc il va disparaître peu à peu du paysage pour probablement rester, il ne restera que quelques collines molles dans quelques millions d'années.
Et vous, avez-vous déjà suivi le parcours de l'eau au cœur de la roche? Dans le Vercors, chaque canyon raconte une histoire. S'immerger, observer, descendre les canyons, toucher la roche, c'est là que la géologie devient vivante. Dans le bruit de l'eau, les jeux de lumière et les creux du calcaire. Merci à Philippe Streff et à Noémie Castin. Le mois prochain, levons les yeux. Place au vent, aux crêtes, et au vol discret du JPED barbu, avec Louise Picavet, naturaliste, et Olivier Théard, photographe. Merci pour votre écoute. Vercors, l'inspiration des éléments, est une série qui se décline en 4 épisodes qui fonctionnent chacun de manière indépendante. Écoutez-les dans l'ordre qui vous plaît. Production, Inspiration Vercors. Prise de son, réalisation et mixage, Alice Roy. Musique, François Joncourt.